Bonjour à tous, Didier Cornardeau, le président du conseil de surveillance. Je remercie les actionnaires pour leur présence à cette assemblée mixte ordinaire et extraordinaire de la société Ribert. Je rappelle que cette assemblée se tient sur convocation du directoire à huis clos, sans présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y assister. Conformément aux dispositions de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret 2020-418 du 10 avril 2020, tel que prorogé par le décret du 9 mars 2021. En effet, à la date de la convocation, le contexte actuel de la crise sanitaire et les mesures administratives et corrélatives prises en vue de limiter ou d'interdire les déplacements ou les rassemblements collectifs faisaient et font toujours obstacle à la présence physique des actionnaires de la société Ribert à l'Assemblée générale. En outre, la société ne dispose pas des moyens techniques permettant la tenue de l'Assemblée générale de manière interactive afin d'assurer la confidentialité et la sérénité des débats par le biais d'un système de conférences téléphoniques ou audiovisuelles, dès lors que le nombre de participants peut être important. Il ne sera pas possible aux actionnaires de poser des questions ni de déposer des projets d'amendement ou de nouvelles résolutions durant l'Assemblée générale. La présente Assemblée générale est toutefois retransmise en direct par webconférence. Une rediffusion sera disponible sur le site internet de la société dès que possible, conformément à la réglementation applicable. Je vais passer maintenant à la constitution du bureau. Désignation des scrutateurs. Comme communiqué le 18 juin 2021, le directoire a désigné aux fonctions de scrutateur M. Emmanuel Ishbia, actionnaire de la société, et M. Stéphane Berterech, directeur financier et actionnaire de la société. Désignation des secrétaires. M. Stéphane Berterech remplira également les fonctions de secrétaire de séance. Quorum. Dans le contexte de cette assemblée, les actionnaires de la société ont été invités à exercer leurs droits en votant par correspondance ou en donnant pouvoir sans indication de mandataire ou à toute personne de leur choix, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet, disponible sur le site internet de la société. Les actionnaires ont également eu la possibilité de voter par internet ou donner pouvoir au président de l'Assemblée générale sur un site sécurisé dédié à travers le service VotaSec. Les actionnaires qui se sont ainsi exprimés possèdent 11 892 013 actions sur un total de 21 036 026 actions ayant le droit de vote, soit 56,532% pour la partie ordinaire et la partie extraordinaire. Le quorum pour la partie ordinaire, c'est-à-dire plus du cinquième des actions, comme pour la partie extraordinaire, c'est-à-dire plus du quart des actions, est donc atteint. Régularité de la convocation. L'Assemblée générale a été convoquée conformément au statut et à la loi. La convocation a été effectuée par avis préalable de réunion et avis de convocation inséré au ballot du 12 mai 2021 et par avis de convocation paru le 4 juin 2021 dans le journal d'annonce légale Les Petites Affiches. En outre, l'avis de convocation prévu par l'administration a été adressé le 4 juin 2021 par KCI Corporate aux actionnaires titulaires d'actions inscrites en compte nominatif et remplissant les conditions requises par les statuts pour participer à cette réunion. Tous les documents prévus ont été joints à l'envoi des formulaires de procuration et cette convocation a été régulièrement faite. Communication des documents. Tous les documents prévus par la législation en vigueur ont été tenus à disposition des actionnaires sur le site internet de la société pendant les 21 jours qui ont précédé la présente réunion, ainsi qu'au siège social pendant les 15 jours qui ont précédé la présente assemblée. Ils ont été également adressés à ceux des actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par la loi. De tout ce qui précède, je déclare l'Assemblée générale ouverte. L'ordre du jour comprend dans son premier point la lecture des rapports du directoire, du conseil de surveillance, des commissaires aux comptes. Je rappelle qu'à titre ordinaire, l'Assemblée générale est réunie pour statuer sur les questions correspondant aux résolutions 1 à 10 de l'ordre du jour, à savoir résolutions 1 à 5 sont relatives aux comptes sociaux consolidés de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, ainsi que de la distribution du dividende prélevé sur le compte prime d'émission de fusion et d'apport. La résolution 6 est relative au rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Les résolutions 7 et 8 sont relatives au renouvellement des mandats des membres du conseil de surveillance. La résolution 9 porte sur le montant de la rémunération annuelle allouée aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice 2020. Et la résolution 10 porte sur une autorisation d'OPA sur les actions de la société. Je rappelle qu'à titre extraordinaire, l'Assemblée générale est réunie pour statuer sur les questions correspondant aux résolutions 11 à 14 de l'ordre du jour, à savoir. Résolution 11 porte sur une autorisation de réduction de capital par annulation d'actions propres détenues par la société. La résolution 12 porte sur une délégation de compétences données au directoire en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices. Résolutions 13 et 14 porte sur la modification de l'article 15.1 des statuts concernant les modalités de participation des membres du Conseil de surveillance à la réunion du Conseil et sur la modification de l'article 18 des statuts concernant les modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales d'actionnaires. Enfin, à titre ordinaire, l'Assemblée générale est réunie pour statuer sur la résolution 15, à savoir les pouvoirs pour les formalités d'usage. Je passe maintenant la parole à M. Philippe Lé, le président du directoire, pour la présentation du rapport de gestion et du directoire.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les actionnaires, donc, je vais vous faire une présentation du rapport d'activité de la société de l'année 2020. Monsieur Berterec vous parlera des résultats et à la fin, je ferai un point sur les perspectives pour l'année à venir et les années futures. Donc, Ibère, c'est un acteur essentiel de l'industrie des semi-conducteurs. Nous sommes spécialistes dans la fabrication de systèmes de production pour fabriquer ces alliages semi-conducteurs et également des dépôts de matériaux complexes. Ibère est leader mondial sur le marché de l'épitaxie par jet moléculaire. Et également, nous avons développé depuis une dizaine d'années une technologie de rupture. Ce sont des évaporateurs pour la production à la fois de cellules CIGS pour le solaire et d'écrans OLED pour l'industrie des smartphones et des écrans plats. L'expertise de Ribère est reconnue mondialement. Nous avons développé et nous développons encore des innovations clés en MBE. Et en parallèle, nous avons des partenariats avec des universités et des industriels pour le développement de nouvelles applications. L'usine est à Beson. Nous avons 1000 m² de salle blanche. Et l'ensemble de la conception et de l'assemblage des composants et des machines sont réalisés sur le site à Beson. Nous avons également un atelier mécanique qui permet la fabrication des enceintes, des machines de recherche et l'ensemble des pièces usinées et achetées à l'extérieur, principalement en France et en Europe. Plus de 50 ans d'expérience, 700 machines en opération et 90% du chiffre d'affaires à l'international. L'utilisation des machines Ribère, les débouchés. Nous avons 4 débouchés principaux. Le premier, c'est l'électronique haute fréquence, donc utilisée dans les télécommunications terrestres comme la 5G, la 4G, la Wi-Fi, les satellites. Donc beaucoup de composants se retrouvent dans les smartphones, par exemple. Donc ça, c'est en particulier les ventes qu'on a eu cette année, l'année dernière, de MBE 6000 à destination du marché asiatique pour renforcer les capacités de la Chine et d'autres pays à produire ce type de composants. Le deuxième champ, c'est l'optoélectronique. L'optoélectronique, donc la transformation d'électrons en lumière pour tout ce qui est data center, fibre optique. Voilà, donc là, c'est un marché plus réduit en termes de volume, par contre extrêmement technologique avec des débouchés au niveau mondial. Donc à la fois des ventes en Europe, aux États-Unis et en Asie. Les capteurs fins, donc c'est un marché à part, c'est pour tout ce qui est vision nocturne, donc en particulier aussi infrarouge UV. Donc historiquement parlant, c'était uniquement des débouchés militaires au début. Mais on a maintenant des demandes très importantes pour à la fois utiliser ces capteurs pour l'industrie civile et également pour des nouvelles applications comme le médical. La dernière partie, ce sont les écrans, donc ce que je vous ai expliqué auparavant. Donc les cellules solaires, donc c'est de l'électronique haute, grande surface, au contraire des autres secteurs de développement. Donc c'est des très grandes surfaces, à la fois pour faire des écrans solaires, ou des écrans de smartphone. La proposition de valeur de Ribère, donc les laboratoires de recherche en MBE, nos clients, ce sont les besoins, ce sont la croissance de nouveaux semi-conducteurs. Donc on a une offre très large, l'offre la plus large du marché, et nous avons régulièrement le développement soit de nouveaux composants, soit de nouvelles machines. Au niveau des composants, nous avons acheté au LAS une licence d'exploitation d'un produit qui s'appelle EasyCurve, donc qui nous permet de nous renforcer dans ces machines de recherche. Les industriels, donc, ce sont la plupart du temps des process qui ont été développés sur des machines de recherche et qui sont industrialisés sur des machines MBE de production. De la même façon, une offre très large avec le MBE 49, le MBE 6000 et dans peu de temps, nous aurons le MBE 8000 que nous avons livré cette année à notre premier client. Les évaporateurs, donc je vous en ai déjà parlé, donc les évaporateurs ont un bas de cycle pour le moment, mais Riber continue à travailler sur ce marché pour être prêt lorsque le marché redémarrera. Notre base de marché, notre base de clients, donc ce sont une base mondiale répartie sur trois zones, l'Europe, les États-Unis et l'Asie. En Europe, donc c'est principalement la France et l'Allemagne. En Asie, donc la Chine, le Japon, la Corée du Sud et en Amérique du Nord, donc les États-Unis. Nous avons environ 630 machines en production et en utilisation sur la partie recherche et en production 120 machines. À la suite du Covid-19, nous sommes en train de faire donc un check général de tous nos clients pour réévaluer en fin de compte le nombre de machines en opération. La partie accessoires et services, qui sont des revenus récurrents pour la société et dont la direction a pris l'engagement de développer ce marché en investissant à la fois en termes de ressources et de personnes, mais également en termes de produits disponibles à la vente. Un marché captif sur des clients qui ont des machines Riber et également d'autres machines de concurrents où nous proposons à la fois de la maintenance, de la vente d'accessoires et également de l'upgrade avec une volonté de Riber d'imposer au marché MBE notre superviseur Cristal qui permet de contrôler les machines MBE et qui a été complètement développé pour cette utilisation. Avant que Stéphane vous présente donc les résultats, je vais revenir sur les faits marquants 2020. Le premier fait marquant, donc, c'est l'épidémie de la Covid-19. Nous avons rapidement adapté notre organisation et nous n'avons pas stoppé du tout la production. Nous avons organisé l'entreprise en deux équipes, matin 6h-14h, l'après-midi 14h-22h, pour diviser les équipes de production et la partie bureau ont été en télétravail pendant un mois et demi. Cela nous a permis de conserver notre train de production et de livrer nos clients avec des délais soit respectés, soit des retards contenus. Nous avons quand même eu des retards de la part de certains de nos sous-traitants qui s'étaient arrêtés pendant un mois ou un mois et demi. Et au niveau de la prise de commande, il y a certains blocages, voire des retards dans les décisions des clients. Les difficultés dans l'obtention des licences d'exportation. Donc, c'est le deuxième point majeur de l'année 2020. Donc, l'administration française. Donc, les machines Riber sont des biens à double usage qui peuvent y être utilisés à la fois pour des applications civiles et des applications militaires. Lorsque nous vendons ce type de machines ou de composants spécifiquement conçus pour la MBE hors donc Europe, États-Unis, Japon, nous devons demander une licence d'exportation à l'administration française. Les premiers refus que nous avons eus ont été en décembre 2019 pour certaines machines, pour des clients chinois auxquels nous avions déjà vendu un certain nombre de machines. Ensuite, nous avons eu des refus de licence toute l'année 2020 et en fin d'année également des refus pour des accessoires et services. Donc sur l'ensemble de l'année 2020, nous estimons le refus de l'administration française à 13 millions d'euros de prise de commande ou de prospects identifiés. L'impact sur le chiffre d'affaires réalisable en 2020 et sur le carnet de commande au 31 décembre est forcément très important. Sur ce point, donc, nous travaillons maintenant beaucoup plus avec l'administration française. J'ai des contacts avec plusieurs services pour expliquer beaucoup plus en amont nos demandes de licence. L'administration française nous a demandé de renforcer nos contrôles des importateurs, donc Nous visitons beaucoup plus nos clients, nous faisons des rapports établis afin de verrouiller et d'avoir des meilleurs retours dans l'obtention de ces licences d'exportation. Mais il faut savoir que certains clients sont maintenant blacklistés par l'administration française et même par l'Europe, donc il sera très difficile de retourner vers ces clients. La focalisation sur les machines a plus, les marchés à plus fort potentiel. Donc, il est clair que suite à cette modification de donne sur les licences d'exportation, nous avons maintenu nos efforts de R&D pour réattaquer des marchés comme l'Europe et les États-Unis, où nous pensons que les plans de relance et la relocalisation de l'industrie du semi-conducteur devraient porter à terme ses fruits. En parallèle, nous avons fermé notre filiale en Corée du Sud qui était dédiée à la vente d'évaporateurs et maintenant ces évaporateurs sont plutôt achetés en Chine. Nous avons demandé à l'État deux prêts garantis de 8 millions d'euros pour faire face à la crise qui sont remboursables à compter de 2022 sur une période de 4 ans. Et le dernier point, nous avons transféré le marché de cotation de l'action Weber, donc de Euronext compartiment C à Euronext Growth. J'en ai terminé pour cette partie fait marquant et la présentation de l'année 2020. Je laisse la parole à Stéphane Berterec qui va vous présenter les résultats de l'année.
Merci Philippe. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Donc les résultats de Ribair pour l'année 2020. Au niveau du chiffre d'affaires, un recul du chiffre d'affaires de moins 3,3 millions d'euros, passant de 33,5 millions d'euros à 30,2 millions d'euros, soit une baisse de 10%, moins 10%, avec un mix de nos ventes différents. Donc sur les systèmes, un recul du chiffre d'affaires de moins 4,8 millions d'euros, passant de 23 millions d'euros à 18,2 millions d'euros, soit une baisse de moins 21%. Un chiffre d'affaires sur les évaporateurs en recul de moins 0,8 millions d'euros, passant de 1,1 million d'euros à 0,3 million d'euros en 2020. Par contre, une belle progression du chiffre d'affaires sur les services accessoires qui progresse de plus 2,3 millions d'euros, passant de 9,4 millions d'euros à 11,7 millions d'euros, soit plus 24%. Au niveau de la marge, une marge sur chiffre d'affaires en très légère progression, passant de 29,6% à 30,1%, mais en baisse en valeur absolue de moins 0,8 millions d'euros en lien avec la baisse du chiffre d'affaires de moins 10%. Au niveau des coûts, nous avons réussi à flexibiliser en partie nos coûts opérationnels suite à la diminution de l'activité et du chiffre d'affaires, soit une diminution des coûts de 0,6 millions d'euros. Ainsi, cela nous a permis d'avoir un résultat opérationnel passant de 0,9 millions d'euros en 2019 à 0,7 millions d'euros, soit une baisse de moins 0,2 millions d'euros par rapport à l'année 2020. Un résultat net, quant à lui, passant de plus 1,1 million d'euros en 2020 à 0,3 million d'euros en 2021, soit moins 0,8 million d'euros, dû, on vient de le voir, à la baisse du résultat opérationnel, et aussi principalement aux écarts de change liés à l'ajustement de nos créances en dollars, de par l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar durant l'année 2020. Au niveau des flux de trésorerie, une trésorerie à l'ouverture de l'exercice à 5,9 millions d'euros et une trésorerie à la fin de l'exercice à plus 8 millions d'euros qui s'est articulée de la manière suivante. La génération d'une capacité d'autofinancement de plus 1,6 millions d'euros, une augmentation du besoin en fonds de roulement de plus 5,3 millions d'euros, principalement dû à l'augmentation du stock de plus 2,8 millions et l'augmentation des créances clients de plus de 2 millions d'euros liés à la diminution des avances de ces derniers. Des investissements de 1,2 million d'euros durant l'année 2020, une distribution aux actionnaires en 2020 de 0,6 million d'euros et l'obtention des PGE pour 8 millions d'euros, permettant ainsi que la trésorerie s'établisse à 8 millions d'euros à la clôture. Enfin, au niveau de la structure financière, une structure financière solide avec 19 millions d'euros de capitaux propres et un endettement net proche de zéro à 0,3 millions d'euros. Nous allons proposer une distribution aux actionnaires à l'Assemblée Générale de 3 centimes par action avec un cours au 31 décembre 2020 à 1,53 euros, donc un rendement de 1,95%. Donc une distribution en numéraire qui sera prélevée sur le compte de la prime d'émission et une proposition de mise en paiement le 7 juillet 2021. Je repasse la parole à Philippe.
Merci Stéphane pour cette présentation. Voilà, donc je vais terminer donc la présentation du rapport de gestion du territoire par les perspectives de l'année 2021. Le premier trimestre, donc nous avons publié notre chiffre d'affaires en retrait, donc de 5,3 millions en 2020 à 3,2 en 2021. Principalement dû à la non-livraison de systèmes sur le premier trimestre. Alors, ce phénomène est le résultat d'une prise tardive des commandes sur l'année 2020. Donc, le Covid a bloqué et a décalé toutes les décisions, une grande partie des décisions de nos clients d'investir sur le deuxième semestre. Donc, nous avons reçu des commandes sur le deuxième semestre et également sur le premier trimestre et second trimestre 2021. Donc à aujourd'hui, nous sommes à 4 commandes de systèmes enregistrées depuis le début de l'année. Nous avons néanmoins des difficultés persistantes à finaliser certains contrats en Asie. Alors également parce qu'il y a des demandes de licences d'exportation qui peuvent prendre jusqu'à 1 à 2 mois. Mais en contrepartie, nous pensons que nous avons bénéficié donc des plans de relance européens et français qui se mettent en place et qui devraient aboutir au deuxième semestre de cette année. Au niveau de la facturation, donc, il y a donc un décalage de la facturation des machines qui vont beaucoup se reporter sur le deuxième semestre de cette année, avec des clients qui doivent venir réceptionner les machines. Donc sur les contrats, il est noté que la machine doit être réceptionnée par une inspection physique de nos clients sur site. Les difficultés à voyager dues au Covid rendent, dans certains cas, ces visites impossibles. Donc, nous devons modifier ou adapter nos contrats pour permettre la facturation et l'expédition des systèmes. Nous prévoyons également une poursuite de la croissance des activités services et accessoires sur cette année. Voilà. Au niveau du carnet de commandes, donc 2021 par rapport à 2020, un carnet de commandes identique au niveau accessoires et services, par contre une baisse au niveau des systèmes, mais qui devrait s'inverser sur le deuxième semestre de cette année. Au niveau de la poursuite des axes stratégiques, donc nous avons 3 domaines, les laboratoires de recherche, les industriels, les services et accessoires. Sur la partie laboratoire de recherche, donc l'effort va être intensifié sur la partie Dream MBE. Donc le Dream MBE, c'est un contrôle complètement automatique des machines de MBE pour se rapprocher le plus possible de machines industrielles complètement gérées. Pour l'instant, la MBE garde vis-à-vis des clients, certains clients, une notion d'adaptation et de machines très complexes. nous souhaitons enlever cette image en automatisant au maximum les machines. Ce travail de Dream MBE qui a commencé il y a maintenant 2 à 3 ans par la revisite totale de notre supervision informatique, c'est ajouté d'une brique qui s'appelle EasyCurve, donc un transfert, une licence qu'on a achetée au LAS et qui va se continuer cette année et l'année suivante par l'ajout de nouveaux instruments. Sur la partie industrielle, nous avons installé des démonstrateurs chez des partenaires pour montrer au marché que la MBE peut être utilisée pour des nouvelles applications. Au niveau des évaporateurs, le développement d'un injecteur linéaire a été terminé cette année. Nous attendons maintenant la reprise du marché asiatique sur les parties OLED et CGS pour aller présenter cet injecteur. Et au niveau de la passivation, nous avons signé un contrat de partenariat avec la société Comtech. Donc nous proposons maintenant 3 plateformes de passivation différentes afin d'adresser l'ensemble des clients qui demandent ce type de process. Services et accessoires, l'objectif c'est de porter à 40% la partie accessoires et services du chiffre d'affaires total. Pour cela, nous avons fait des investissements en marketing, sur la promotion de nos offres, sur l'adaptation de nos offres. Nous avons renforcé la couverture commerciale de nos clients et nous sommes en train d'identifier de nouveaux produits afin de pénétrer des marchés et également sur des machines concurrentes. Au niveau de l'effort R&D pour soutenir la compétitivité, donc le plus gros effort qui a été fait en 2020 et en début 2021, ça a été donc la réalisation du MBE 8000. C'est la plus grosse machine MBE du monde. C'est 8 fois 6 pouces au niveau du nombre de wafers à traiter. La plus grosse machine concurrente de Vico est à 7 fois 6 pouces. Cette machine a été livrée à un partenaire historique, un client historique de Ribert qui s'appelle Intellier EPI aux États-Unis, qui utilise uniquement des machines Ribert de MBE et qui a comme stratégie de concurrencer la MOCVD par la MBE pour la fabrication de VCSEL. Sur le développement des produits dédiés à la passivation, j'en ai parlé, donc nous avons un axe de développement cette année sur ce marché. Et nous commençons actuellement l'étude sur la conception et la réalisation d'un réacteur 300 mm. Donc la machine MBE 49 Ribert, c'est du 200 mm. Nous avons 2 MBE 49 chez 2 clients qui permettent de faire des tests et des process, de développer des process. Mais nous souhaitons maintenant avoir une machine 300 mm qui sera adaptée pour l'industrie du silicium. Au niveau évaporateur, donc je vous en ai parlé, l'évaporateur terminé, nous attendons la reprise des déplacements pour aller présenter ce nouveau composant aux acteurs asiatiques. Et sur les projets collaboratifs, nous avons donc Intellier EPI, j'en ai parlé pour les VCSEL, IMEC, donc un partenariat sur la partie anti-monure sur un MBE 49, et le CNRS Ocrea sur la partie GAN pour les diodes UV et les micro-LED. Donc, malgré la crise, nous avons un potentiel intact de développement. Nous avons conservé les équipes identiques. Nous avons réussi, je dirais, à passer la crise en livrant nos clients, en améliorant nos délais de fabrication, en ayant une meilleure qualité de produits à la sortie et en augmentant nos prix de vente en proposant une valeur ajoutée sur l'ensemble des produits que nous proposons. Le niveau d'exigence technologique, c'est une barrière à l'entrée qui est très importante. Donc, il n'est pas facile de venir en MBE et de venir concurrencer Ribert lorsqu'on est un nouvel entrant. Les marchés finaux sont très porteurs. Les technologies de l'information, la 5G, les téléphones portables, les data centers, la volonté des acteurs de réduire l'empreinte carbone, donc de diminuer l'échauffement en utilisant de l'électricité et d'utiliser au maximum, je dirais, des fibres optiques avec de la lumière. Donc, tous ces marchés sont très porteurs pour la MBE. Donc pour terminer, le potentiel de développement reste solide. Nous avons des opportunités à la fois à court terme et à moyen terme d'augmenter le chiffre d'affaires et la création de valeur. et l'organisation réactive et agile a montré ses performances durant la crise du Covid. Voilà. J'en ai terminé et je laisse maintenant la parole à Didier pour la suite.
Le rapport sur la gouvernance de l'entreprise, joint au rapport de gestion et d'organisation directoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, vous est présenté en application du dernier alinéa de l'article L225, petit 338 du Code de commerce. Je rappelle que ce rapport figure en page 53 et suivante du rapport annuel 2020 et je propose de ne pas en faire la lecture. Les termes de ce rapport, préparés notamment sur la base des informations transmises au Conseil de surveillance, ont été arrêtés et approuvés par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 23 avril 2021. Il est rappelé que les actions de la société étant admises depuis le 1er septembre 2020 aux négociations sur le système multilatéral de négociation organisé par Euronext, au lieu et place du marché réglementé de Euronext Paris, le contenu du présent rapport a été revu par rapport à l'exercice précédent dans la mesure où les dispositions suivantes ne sont plus appliquées à la société. Les articles L22-10-9, ancien article L225-37-3 et d'autres articles L225-82-2, L22-10-34, ancien article de l'article de la loi 225-100-2 et 3 du Code de commerce relatif au contrôle des rémunérations des mandataires sociaux dites CNPL. L'article L22-10-10 du Code de commerce relatif à certaines mentions du rapport sur le gouvernement d'entreprise applicable exclusivement aux sociétés dont les titres sont admis en négociation sur un marché réglementé. La société précise en outre que les dispositions de l'article L22-10-10, quatrième paragraphe, du Code de commerce relative au choix d'un Code de commerce d'entreprise ne sont plus applicables. Toutefois, la société a choisi de continuer de se référer volontairement au Code de gouvernement d'entreprise Middlenext, disponible sur le site Internet de Middlenext. Le présent rapport met en exergue les recommandations du dit Code que la société aurait décidé d'écarter et les raisons ayant motivé cet écart. Je donne maintenant la parole au commissaire aux comptes pour la lecture résumée de leurs différents rapports.
Merci, Monsieur le Président. Donc, mesdames et messieurs les actionnaires, au nom du Collège des commissaires aux comptes, les cabinets KPMG et RSM, nous allons vous rendre compte de notre mission sur les comptes de l'exercice 2020. Nos rapports sur les comptes annuels et consolidés, celui sur les conventions réglementées et la résolution relative à la réduction de capital, ont été tenus à votre disposition par la société dans les délais qui sont prévus par la loi. Je vais présenter les rapports sur les comptes annuels et consolidés et mon confrère Clément Perrault du cabinet RSM prendra la suite pour le rapport spécial et le rapport sur la réduction de capital. Alors concernant le rapport sur les comptes annuels de Ribère SA, ceux-ci sont préparés selon les principes comptables français et nous les avons certifiés sans réserve et sans observation. Le fondement de cette opinion sans réserve repose notamment sur deux justifications d'appréciation qui, pour votre société, concernent d'une part l'évaluation au fur et à mesure du processus de fabrication des stocks d'encours dont la valeur au bilan s'élève à 5,4 millions d'euros à la clôture, ainsi que l'évaluation des titres de participation et créances rattachées relatives à la société, votre filiale Ribère Inc., et dont le montant net s'élève à 3 millions à la clôture. Alors, au-delà de ces justifications d'appréciation qui concernent des estimations significatives pour la société, vous notez que notre rapport sur les comptes annuels, mais aussi celui sur les comptes consolidés, fait état, dans le contexte de crise sanitaire, d'une autre justification d'appréciation que vous retrouvez d'ailleurs dans l'ensemble des rapports des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2020, et qui fait état donc du contexte complexe et évolutif lié à la crise sanitaire et qui a impacté les conditions de préparation et de réalisation de nos audits. Concernant les vérifications spécifiques, dans notre rapport sur les comptes annuels, dans ce paragraphe dédié, nous confirmons que toutes les informations prévues par la loi ont bien été fournis par Ribère SA à ses actionnaires et que nous n'avons pas d'observation sur la sincérité et sur la concordance avec les comptes annuels des informations financières figurant dans le rapport de gestion. Nous attestons également dans notre rapport de l'existence dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise des informations requises par la loi. Concernant notre rapport sur les comptes consolidés du groupe Ribère, ces comptes sont préparés selon le référentiel international IFRS, ça ne change pas par rapport aux précédents exercices, tel qu'il a été adopté par l'Union européenne. Ces comptes consolidés, nous les avons également certifiés sans réserve et sans observation. Le fondement de notre opinion repose notamment sur trois justifications d'appréciation sur les estimations les plus significatives à notre sens. Il s'agit, comme pour les comptes sociaux, du processus de fabrication et d'évaluation des encours, de l'évaluation du goodwill, dont le montant s'élève à 1,2 million d'euros dans les comptes consolidés, et sur l'évaluation et la comptabilisation des impôts différés, le montant d'impôts d'actifs différés s'élevant à 2 millions d'euros à la clôture 2020. Sur les comptes consolidés toujours et concernant les vérifications spécifiques, nous vous confirmons que toutes les informations prévues par la loi et relatives au groupe Ribère ont bien été fournies dans le rapport de gestion du directoire et que nous n'avons pas d'observation à vous formuler sur la sincérité et sur la concordance avec les comptes consolidés des informations financières figurant dans ce rapport de gestion. Clément, je te laisse la parole sur les deux autres rapports.
Merci, bonjour à tous. En complément de notre mission de certification des comptes, nous devons aussi établir un rapport sur les conventions réglementées. Ces conventions sont soumises à une autorisation par votre conseil de surveillance. Il nous appartient de vous communiquer les caractéristiques et modalités essentielles de ces conventions qui sont soumises à votre approbation. Notre rapport ne fait état d'aucune nouvelle convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé. Nous faisons état de trois conventions déjà approuvées au cours d'exercices antérieurs. L'une d'entre elles concerne le président du directoire, M. Philippe Lé, et les engagements pris par votre société à l'occasion de sa nomination en qualité de membre du directoire d'octroyer à ce dernier le bénéfice de l'affiliation au régime de base de, et complémentaire de santé, de frais de santé, de retraite et de prévoyance mis en place par la société au bénéfice de l'ensemble des salariés. Cet engagement a continué à être exécuté sur l'exercice. Par ailleurs, et sans exécution sur l'exercice, la même convention prévoit d'octroyer une indemnité forfaitaire de départ conventionnel de 12 ou 24 mois de rémunération fixe brute à ce dernier en cas de révocation de son mandat social, selon la mise en place ou non d'une garantie perte d'emploi type CSG formule 70 et de conditions de performance à réunir, qui sont le montant de résultat net consolidé de la société doit avoir été positif au titre d'au moins l'un des deux exercices clos précédant l'exercice au cours duquel intervient la révocation, et les actions prioritaires suivantes doivent avoir été menées avec succès au titre de chacun des deux exercices clos précédant l'exercice au cours duquel intervient la révocation, absence de litige et action, organisation et gestion du directoire. Deux autres conventions avec votre filiale Ribère Inc. n'ont pas été exécutées. L'engagement sous forme de caution, aval ou garantie que votre directoire est autorisé à donner au bénéfice de Ribère Inc. et la convention d'assistance avec Ribère Inc. qui a été résiliée à compter du 1er janvier 2020. Nous avons aussi émis un rapport sur la réduction du capital envisagé dans votre résolution numéro 11. Dans le cadre de cette résolution, votre directoire vous propose de lui déléguer pour une durée de 18 mois tout pouvoir pour annuler dans la limite de 10% de son capital par période de 24 mois les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat par votre société de ses propres actions. Nos diligences dans ce cadre conduisent à examiner si les causes et les conditions de la réduction du capital envisagé, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires, sont régulières. À l'issue de ces diligences, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagé. Je vous remercie pour votre attention.
Nous allons aborder maintenant les questions écrites, étant donné que c'est le seul qui est écrit. Donc, Philippe, les questions écrites.
Donc, Monsieur le Président, je vous informe que le directoire a reçu 4 questions écrites de la part de Monsieur Francis Lescarré, actionnaire de la société. Je vous propose de répondre à chacune de ces questions après en avoir donné lecture complète. Dans un monde où les distances se sont rétractées et se redéploient, le groupe ressent-il toujours des difficultés d'approvisionnement en composants, produits transformés, tels les solvants, et matières premières? Et quelles sont les mesures prises pour prévenir ce risque? Deuxième question. Les plans de relance français, allemands, européens, nord-américains, russes sont-ils susceptibles d'ouvrir de nouveaux marchés
ou renforcer nos marchés existants. Troisième question. Notre industrie présente des activités cycliques, donc la cyclicité se constate dans les chiffres publiés au cours des deux dernières années, hors effet des restrictions sanitaires. Le développement des outils de production, éoliennes, panneaux solaires et de stockage, batteries, piles hydrogène et le développement de nouveaux outils médicaux et pharmaceutiques ouvrent-ils de nouvelles perspectives pour le groupe? Et enfin, dernière question, quel a été l'impact humain du Covid sur nos équipes? Donc je vais répondre donc à ces quatre questions. Donc sur la première, la partie approvisionnement, donc matière première, produits transformés. Donc je rappelle que la société a un stock stratégique de matières premières de 3 à 4 millions d'euros, constitué en partie de tantale, donc matériaux réfractaires, molybdène et aussi un peu d'acier inoxydable. Donc ce stock a été fait il y a très longtemps pour en fin de compte contenir et prévenir les aléas de délais de livraison sur ce type de matière. Les délais peuvent s'étaler entre 2 et 6 mois, voire 8 mois. Donc ça nous permet d'anticiper et de passer tous les pics qui peuvent subvenir sur la tension et la livraison des matières stratégiques. Donc sur la partie matière première, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la partie pièces transformées, nous avons certaines pièces stratégiques qui sont utilisées dans l'industrie du silicium et des semi-conducteurs en général, telles les pompes et les vannes. Sur ce type de composants, nous en sommes actuellement à plus de 6 mois de délai, alors que je dirais il y a 2-3 ans en arrière, nous étions à 2-3 mois de délai. Donc nous avons un stock de sécurité sur ces composants et également un plan directeur qui nous permet d'acheter ces composants en avance en fonction des prévisions de vente de machines. La deuxième question, les plans de relance, sont-ils susceptibles d'ouvrir de nouveaux marchés ou de renforcer nos marchés existants? Donc, pour l'instant, nous avons identifié un plan de relance au niveau français. Ce plan de relance a été acté en début d'année, voire fin 2020, et nous pensons que les premières commandes seront engrangées sur le dernier trimestre de cette année. Sur la partie allemand, pour l'instant, nous n'avons pas d'indication que le plan de relance ou qu'un plan de relance sera mis en place sur la partie MBE. Et sur la partie américaine, il y a un plan de relance qui vient d'être ouvert avec un certain nombre de machines proposées aux États-Unis. Alors, au niveau européen, ce qui se passe au niveau européen, c'est que l'Europe a décidé de réinternaliser ou de refabriquer sur le sol européen des semi-conducteurs qui sont actuellement soit fabriqués aux États-Unis, soit en Asie. Pour l'instant, il n'y a pas de retombée pour Ibère, mais nous pensons que sur l'année 2022, nous devrions avoir un début de retombée pour avoir cette relocalisation d'un certain nombre de fabrications sur le sol européen. Au niveau de la cyclicité de nos activités, et le développement de nouvelles activités. Donc, dans le passé, nous avons développé nous avons été attaqués de nouveaux marchés. Donc, ce sont les cellules CGS et également les cellules OLED pour les smartphones et les télés. Donc, sur la partie panneaux solaires, nous sommes déjà présents sur le marché. Sur la partie éolienne, il n'y a pas d'utilisation de MBE sur ce type de composants. Par contre, sur les stockages, nous travaillons justement donc avec cet évaporateur moyenne température. Nous l'avons développé également pour attaquer le marché des batteries. Donc, ce qu'on constate, c'est que la technologie de fabrication des batteries évolue extrêmement vite et nous pensons que d'ici 2 à 3 ans, certaines applications demanderont de l'évaporation sous guide. Au niveau des outils médicaux et pharmaceutiques, nous avons des demandes de plus en plus pour, comme je vous en ai parlé auparavant, des systèmes MBE pour avoir de l'imagerie médicale, par exemple. L'impact humain du Covid sur nos équipes. Alors, nous avons été... comme je vous ai rappelé auparavant, nous avons mis les gens qui étaient dans les bureaux en télétravail. Donc ça nous a permis de diviser par deux, par quatre le nombre de personnes présentes sur le site. Et nous avons eu très peu de cas de Covid avérés en 2020, en 2021. Nous avons eu des cas contacts, donc bien sûr avec une isolation du cas contact pendant une semaine à deux semaines. Mais je dirais qu'en en globalité, le Covid a eu un impact surtout sur les délais de livraison de nos fournisseurs qui ont perturbé la production pendant un mois à un mois et demi sur le premier semestre. La conséquence de la pandémie, c'est que les déplacements internationaux, voire européens, sont très limités. Donc l'impact qu'on a vécu tout 2020 et qui se prolonge en 2021, c'est une impossibilité ou de très grandes difficultés à se déplacer hors de France. Même en Allemagne, c'est complexe, même en Italie et en Chine. Donc par exemple, la Chine qui est notre plus gros marché, nous devons, lorsqu'on envoie un technicien ou un ingénieur sur place, avoir jusqu'à 4 semaines de quarantaine. C'est-à-dire pendant 4 semaines, notre personnel Ribère est enfermé dans une chambre d'hôtel sans pouvoir en sortir, sans pouvoir prendre ses repas à l'extérieur de la chambre et il a formellement interdiction de sortir de la chambre d'hôtel pendant 4 semaines. Donc ça représente, je dirais, ça s'apparente à de la prison. Et donc nous limitons au maximum ce type de déplacement et lorsque nous le faisons, nous accompagnons notre personnel par un suivi psychologique au retour. Voilà. Bah, j'en ai fini avec les questions.
Je propose de passer au stade du vote des résolutions mises à l'ordre du jour et je donne la parole au secrétaire de séance pour la synthèse de ces résultats.
Merci Didier. Je rappelle que l'Assemblée est réunie pour voter sur des résolutions à titre ordinaire et à titre extraordinaire. Nous allons tout d'abord procéder à la lecture du résultat des votes des résolutions décidées par l'Assemblée générale statuant en la forme ordinaire, c'est-à-dire à la majorité simple. Première résolution, approbation des comptes sociaux annuels de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes de la société faisant apparaître un résultat déficitaire de 18 293,83 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 623 362 voix, soit 99,753% des votes exprimés. Contre 28 800 voix, soit 0,247% des votes exprimés. Abstention, 239 911 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Deuxième résolution. Affectation du résultat de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Cette résolution a pour objet de proposer de procéder d'affecter ce résultat déficitaire de 18 293,83 € au compte report à nouveau, ainsi porté de moins 4 849 903,03 € à 4 868 196,96 €. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 858 362 voix, soit 99,758% des votes exprimés, contre 28 800 voix, soit 0,242% des votes exprimés. Abstention, 7 911 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Troisième résolution. Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices. Cette résolution a pour objet de constater qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices clos le 31 décembre 2007, 2018 et 2019, étant toutefois rappelé que, petit 1, l'Assemblée générale du 21 juin 2018 a décidé de procéder à une distribution prenant la forme d'un remboursement d'une partie de la prime d'émission qui était inscrite au compte prime d'émission de fusion d'apport à concurrence de 5 centimes par action, 5 centimes d'euros par action, soit une somme totale de 1 047 253,50 € effectivement distribués. Deuxièmement, l'Assemblée générale du 27 juin 2019 a décidé de procéder à une distribution intervenue en juillet 2019, prenant la forme d'un remboursement d'une partie de la prime d'émission qui était inscrite au compte prime d'émission de fusion d'apport à concurrence de 3 centimes d'euros par action, soit une somme totale de 621 188 euros et 94 centimes effectivement distribués. Une distribution intervenue en septembre 2019, prenant la forme d'un remboursement d'une partie de la prime d'émission qui était inscrite au compte prime d'émission de fusion d'apport à concurrence de 2 centimes d'euros par action, soit une somme totale de 419 544 euros et 18 centimes effectivement distribués. Enfin, l'Assemblée générale du 23 juin 2020 a décidé de procéder à une distribution prenant la forme d'un remboursement d'une partie de la prime d'émission qui était inscrite au compte prime d'émission de fusion d'apport à concurrence de 3 centimes d'euros par action, soit une somme totale de 631 126 euros et 20 centimes effectivement distribués. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 855 562 voix, soit 99,76% des votes exprimés, contre 28 600 voix, soit 0,241% des votes exprimés, abstention 7 911 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Quatrième résolution. Distribution d'une somme prélevée sur le compte prime d'émission de fusion et d'apport à concurrence de 3 centimes d'euros par action. Cette résolution a pour objet d'approuver une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission à concurrence de 3 centimes par action, soit sur la base d'un capital composé de 21 253 024 actions au 31 décembre 2020 d'une somme totale de 637 590 euros et 72 centimes. Si le nombre d'actions ouvrant droit à cette distribution s'avérait inférieur, notamment du fait des actions autodétenues par la société ou supérieures à 21 253 024 actions, le montant affecté à cette distribution serait ajusté à la baisse ou à la hausse et le montant prélevé sur le compte prime d'émission de fusion et d'apport serait déterminé sur la base des sommes effectivement mises en paiement. La date de mise en paiement de cette distribution est fixée par le directoire au 7 juillet 2021. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 855 588 voix, soit 99,76% des votes exprimés, contre 28 600 voix, soit 0,241% des votes exprimés, abstention 7 885 voix, la résolution est adoptée à la majorité. Cinquième résolution, approbation des comptes consolidés de la société clos au 31 décembre 2020. Cette résolution a pour objet de soumettre à votre approbation, après avoir pris connaissance des rapports du directoire, du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, les comptes consolidés de Ribère, Ribère SA et ses filiales Ribère Inc. et Ribère Semiconductor Technology Shanghai, RSTS, faisant apparaître un bénéfice de 260 milliers d'euros, ainsi que les opérations ressortant des dix comptes et rapports. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 855 236 voix, soit 99,757% des votes exprimés, contre 28 926 voix, soit 0,243% des votes exprimés. Abstention, 7 911 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Sixième résolution. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Dans cette résolution, il vous est proposé de prendre acte sur la base du rapport spécial des commissaires aux comptes prévu aux articles L225-86 et suivants du Code de commerce, de l'absence de nouvelles conventions réglementées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et d'approuver les termes de ce rapport. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 855 224 voix, soit 99,75% des votes exprimés, contre 28 938 voix, soit 0,244% des votes exprimés, abstention 7 911 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Septième résolution. Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Didier Cornardo et proposition de renouvellement de son mandat. Cette résolution a pour objet de renouveler pour une nouvelle période de 2 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 le mandat de membre du conseil de surveillance de M. Didier Cornardo. Des informations le concernant ont été publiées sur le site internet de la société conformément aux lois et règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 10 489 959 voix, soit 97,481% des votes exprimés, contre 271 101 voix, soit 2,519% des votes exprimés. Abstention, 1 131 013 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Huitième résolution. Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Nicolas Grandjean et proposition du renouvellement de son mandat. Cette résolution a pour objet de renouveler pour une période de 2 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le mandat de membre du conseil de surveillance de M. Nicolas Grandjean. Les informations le concernant ont été publiées sur le site internet de la société, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 601 539 voix, soit 99,743% des votes exprimés, contre 29 853 voix, soit 0,257% des votes exprimés. Abstention, 260 681 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Neuvième résolution. Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du conseil de surveillance, en application de l'article L225-83 du Code de commerce. Cette résolution propose de fixer à 150 000 euros le montant de la somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice 2021, en application de l'article L225-83 du Code de commerce. Le résultat du vote est le suivant. Pour 10 568 315 voix, soit 96,351% des votes exprimés, contre 400 199 voix, soit 3,649% des votes exprimés. Abstention, 923 559 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Dixième résolution. Autorisation d'opérer sur les actions de la société. Cette résolution a pour objet d'autoriser le directoire à mettre en œuvre un programme de rachat d'actions par la société de ses propres titres et dont les objectifs sont décrits dans les documents mis à disposition des actionnaires. La part maximale du capital pouvant être achetée ne pourrait excéder 10% du capital social en application des dispositions de l'article L225-209 du Code de commerce. Le montant maximum du programme serait fixé à 3 millions d'euros. Le prix maximum d'achat serait de 10 euros par action, hors frais d'acquisition. Cette autorisation serait donnée pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021 et au plus tard 18 mois à compter de la présente Assemblée générale. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 632 685 voix, soit 97,883% des votes exprimés, contre 251 576 voix, soit 2,117% des votes exprimés, abstention 7 812 voix, La résolution est adoptée à la majorité. Nous allons à présent procéder à la lecture du résultat des votes des résolutions décidées par l'Assemblée générale à titre extraordinaire, c'est-à-dire à la majorité des deux tiers. Onzième résolution. Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la société. Cette résolution a pour objet d'autoriser le directoire d'annuler, en tant que de besoin, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détiendrait ou pourrait détenir en conséquence de l'utilisation des autorisations d'achat d'actions données par l'Assemblée générale au directoire, dans la limite de 10%, par période de 24 mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l'opération. Le directoire aurait ainsi délégation avec faculté de subdélégation dans les conditions légales de tout pouvoir pour réaliser là où les réductions de capital consécutives aux opérations d'annulation autorisées par l'Assemblée générale, pour en fixer les modalités et conditions, procéder aux imputations nécessaires sur tout poste de réserve, bénéfices ou de primes, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et généralement prendre toute décision et effectuer toute formalité. Cette délégation serait valable pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée générale. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 854 725 voix, soit 99,751% des votes exprimés, contre 29 536 voix, soit 0,249% des votes exprimés. Abstention, 7 812 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Douzième résolution. Délégation de compétences données au directoire en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices. Cette résolution a pour objet d'autoriser le directoire à décider d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par incorporation de tout ou partie des réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, dont la capitalisation sera légalement ou statutairement possible, par attribution d'actions gratuites et par élévation de la valeur nominale des actions. Le montant nominal maximum des émissions qui pourrait être décidé par le directoire serait égal à 2 millions d'euros. Cette délégation serait valable pour une durée de 26 mois à compter de l'Assemblée générale. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 587 749 voix, soit 97,593% des votes exprimés, contre 285 844 voix, soit 2,407% des votes exprimés. Abstention, 18 480 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Treizième résolution. Modification de l'article 15.1 des statuts concernant les modalités de participation des membres du Conseil de surveillance à la réunion du Conseil. Cette résolution a pour objet de vous proposer de modifier l'article 15.1 des statuts afin de mentionner la possibilité pour les membres du Conseil de surveillance, et sauf dans les cas expressément visés au dit article, de participer à la réunion du Conseil au moyen d'une visioconférence ou par l'utilisation de moyens de télécommunication dans les conditions permises ou prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 539 448 voix, soit 99,507% des votes exprimés, contre 57 187 voix, soit 0,493% des votes exprimés. Abstention, 295 428 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Quatorzième résolution. Modification de l'article 18 des statuts concernant les modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales d'actionnaires. Cette résolution a pour objet de vous proposer de modifier l'article 18 des statuts afin, petit 1, de permettre aux actionnaires de se présenter, de se faire représenter aux assemblées générales d'actionnaires par un autre actionnaire, par leur conjoint ou par leur partenaire pacsé ou par toute autre ou par toute personne de leur choix. Et deux, d'octroyer au directoire la faculté d'autoriser l'envoi par télétransmission, y compris par voie électronique, à la société des formules de procuration et de vote par correspondance dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Lorsqu'il y sera fait recours, la signature électronique pourra résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance en application de la réglementation en vigueur. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 567 347 voix, soit 99,747% des votes exprimés, contre 29 288,18 voix, soit 0,253% des votes exprimés. Abstention, 295 428 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Quinzième et dernière résolution, les pouvoirs. La dernière résolution est usuelle et permet l'accomplissement des publicités et formalités légales consécutives aux décisions prises lors de l'Assemblée générale. Le résultat du vote est le suivant. Pour 11 799 783 voix, soit 99,756% des votes exprimés, contre 28 862 voix, soit 0,244% des votes exprimés. Abstention, 63 428 voix. La résolution est adoptée à la majorité. Le détail des votes sera communiqué ce jour sur le site internet de la société. Et je redonne à présent la parole à Monsieur le Président afin de clore l'Assemblée générale mixte.
L'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée et vous souhaite une bonne journée à tous et surtout des bons résultats pour l'hiver prochain. À bientôt.